Première variante. Une méthode pour raviver la concentration lorsqu'elle devient trop ténue consiste à compter les respirations. On peut, par exemple, compter mentalement 1 à la fin d'un cycle complet du souffle, c'est-à-dire inspiration et expiration, puis 2 à la fin du cycle suivant, et ainsi de suite jusqu'à 10. Et recommencer alors à partir de 1. Cette façon de procéder nous aide à maintenir l'attention. Si l'on préfère, on peut aussi compter 1 à la fin de l'inspiration et 2 à la fin de l'expiration. Cette méthode et les suivantes peuvent être appliquées de temps à autre selon les besoins. Mais il n'est pas nécessaire de compter les respirations pendant toute la durée de la méditation. Deuxième variante. Une autre façon de procéder consiste à répéter mentalement et assez rapidement pendant toute la durée de l'inspiration, puis de la même façon durant l'expiration. Pour le cycle suivant, on comptera en inspirant et 4 en expirant. On poursuivra de la sorte jusqu'à 10, puis on recommencera un nouveau cycle. On peut également compter rapidement de 1 à 10 pendant l'inspiration et faire de même lors de l'expiration. Il existe ainsi diverses manières de compter que l'on trouvera dans les textes plus détaillés cités en fin d'ouvrage. Toutes ont pour but de rafraîchir la concentration lorsqu'on tombe dans la somnolence ou la distraction. Troisième variante. Au lieu d'observer le souffle lui-même, on peut aussi se concentrer sur les mouvements de va-et-vient de l'abdomen ou des poumons qui accompagne la respiration. Quatrième variante. Il est aussi possible d'associer une phrase simple au va-et-vient du souffle. En expirant, par exemple, on se dira mentalement « Puissent tous les êtres être heureux » et en inspirant « Que toutes leurs souffrances disparaissent ». Cinquième variante. Ceux qui pratiquent la récitation de mantras peuvent combiner la récitation silencieuse avec l'attention au souffle. Si l'on prend comme exemple le mantra Om Mani Padme Hum, qui est celui du Bouddha de la compassion, Avalokiteshvara, on récitera Om en inspirant, Mani Padme en expirant et Hum entre les deux. Sixième variante. Normalement, on ne doit pas influencer le va-et-vient du souffle, ni s'attarder sur l'intervalle entre inspiration et expiration. Mais dans cette variante, on se concentre quelques instants sur le point de suspension du souffle, c'est-à-dire le moment où le souffle s'évanouit à la fin de l'expiration. C'est aussi le point où les pensées discursives sont temporairement suspendues. Pendant ce bref moment, demeurons au repos dans cet espace limpide, serein et libre de construction mentale. Sans pour autant conceptualiser cette expérience, reconnaissons qu'elle représente un aspect fondamental de notre esprit, qui est toujours présent derrière le rideau des pensées. Ces diverses variantes peuvent être pratiquées à notre convenance dans le but d'améliorer notre concentration. La concentration sur un objet. Il y a bien d'autres manières de cultiver la concentration et le calme mental. Ces méthodes sont de deux sortes, selon que l'on a recours ou non à un objet. Cet objet peut être le va-et-vient du souffle, comme nous venons de le voir, mais aussi d'autres sensations physiques, une forme extérieure ou une image que l'on aura visualisée. On peut choisir un objet extérieur tout à fait ordinaire, un caillou, une fleur, ou la flamme d'une bougie, par exemple. Comme dans le cas de la respiration, l'entraînement consiste à laisser l'esprit reposer attentivement sur l'objet choisi et à le ramener sur celui-ci dès que l'on s'aperçoit que l'on s'est laissé distraire. L'objet peut aussi être une représentation symbolique ou figurative associée au chemin spirituel, par exemple une peinture ou une statue du Bouddha. On commencera par se concentrer suffisamment longtemps sur cette représentation afin d'avoir tous ces détails présents à l'esprit. Puis on se concentrera sur la représentation mentale de ce support. Voici, résumé, des instructions orales données par Dilgo Khyentse Rinpoche à ce sujet. Méditation. Asseyez-vous dans la posture en sept points. Laissez votre esprit s'apaiser quelques instants. Puis, visualisez le Bouddha Shakyamuni dans l'espace devant vous. Il est assis sur un disque de lune, lequel repose sur un lotus et sur un trône soutenu par 8 lions. Son corps est resplendissant comme une montagne d'or. De sa main droite, il touche le sol près de son genou droit, faisant le geste de prendre la terre à témoin. Sa main gauche repose dans son giron, dans le geste de l'équanimité, et il tient un bol d'aumône rempli de nectar. Il est vêtu des 3 robes monastiques et de son corps émanent d'infinis rayons de lumière de sagesse et de compassion qui emplissent l'univers. Donnez vie à cette image. Pensez que le Bouddha que vous visualisez n'est pas inerte, comme un dessin ou une statue. Il n'est pas non plus fait de chair et d'os. Son corps est lumineux et transparent comme un arc-en-ciel, rayonnant de sagesse et de compassion. Concentrez-vous entièrement sur la visualisation. Chaque détail étant le plus net possible. Portez votre attention sur l'ovale parfait du visage, sur les yeux empreints de sagesse et d'amour, sur le nez et les oreilles aux proportions harmonieuses, sur le sourire et sur les rayons de lumière qui émanent du corps. Étendez progressivement votre concentration à tous les détails de la forme du Bouddha, de haut en bas et de bas en haut, avec la même minutie que le ferait un peintre. Pour affermir votre concentration, neutralisez sur le champ tout ce qui peut perturber votre esprit. Si celui-ci s'agite, si vos pensées s'emballent et vous empêchent d'obtenir une image claire, baissez légèrement le regard qui est normalement posé dans l'espace pour vous concentrer sur la partie inférieure du Bouddha. Les jambes croisées, le trône soutenu par des lions ou le siège de lotus. Cela vous aidera à réduire votre agitation mentale. si votre esprit sombre dans la torpeur, le relâchement ou une morne indifférence, levez le regard et concentrez-vous sur la partie supérieure de la visualisation. Le visage du Bouddha, ses yeux, le point entre ses sourcils. Si votre visualisation n'est pas claire, essayez inlassablement de la rendre plus fine et plus précise. Si elle est claire, concentrez-vous sur elle de manière naturelle, sans tension. Quand votre esprit devient stable et paisible, examinez-le. Comprenez que l'image que vous visualisez n'est pas le Bouddha lui-même, mais une projection de votre esprit, dont le but est de cultiver la concentration. Bien que cet esprit ait la faculté de se concentrer sur un objet, si vous essayez de le voir tel qu'il est en lui-même, vous ne le découvrirez nulle part. Il est impossible de localiser l'esprit, d'identifier ses contours, sa couleur, sa forme, d'où il vient, ni de voir où il est et où il va. Vous ne trouverez jamais rien. L'esprit n'est pas une entité autonome, pouvant être identifié comme tel. Il en va de même pour le corps. Ce que nous appelons corps n'est qu'un assemblage d'éléments. Nous qualifions bien de tas un amoncellement de grains, de bottes, des brins de paille liés ensemble, et de foule un rassemblement de gens. Mais ces désignations ne se réfèrent à aucune entité existant en soi et par soi. De même, si vous considérez cet ensemble appelé corps et que vous en détachiez la peau, la chair, la moelle, les os et les différents organes, il ne reste rien que vous puissiez identifier comme étant le corps. En vérité, tous les phénomènes de l'univers apparaissent dans leur infinie variété comme le résultat d'un concours temporaire de causes et de conditions spécifiques. Nous prenons ces phénomènes pour réellement existants parce que nous ne les avons pas examinés avec suffisamment de soin. En réalité, ils sont dépourvus de toute existence intrinsèque. Une fois qu'il vous apparaîtra clairement que votre corps, le Bouddha de votre visualisation et tous les phénomènes sont la manifestation de l'esprit, et que par nature l'esprit n'est pas une entité douée d'existence propre, mais un flot dynamique d'expérience, restez simplement dans l'état naturel de l'esprit dénué de tout artifice. Lorsque des pensées surviendront, prenez-en conscience, sans les entraver, ni les encourager. C'est ce que l'on appelle la vision profonde. Il est essentiel d'unir ainsi le calme mental, shamatha, et la vision profonde, vipassana. La concentration sans objet. À première vue, il peut sembler que la méditation informelle et sans objet soit plus facile que la méditation avec objet. En fait, il est plus difficile de garder son esprit clair et concentré sur lui-même dans un état de pleine conscience que de se concentrer sur quelque chose. La raison en est qu'il est difficile de ne penser à rien. La concentration sur un objet implique une certaine activité mentale liée à l'attention. Et même s'il est difficile de maintenir cette concentration, cela reste toutefois plus aisé que de laisser son esprit dans un état de parfaite simplicité, exempt de toute construction mentale. Cela dit, la concentration sans objet est l'aboutissement naturel de la concentration avec objet et représente un pas de plus vers la compréhension de la nature fondamentale de l'esprit par l'expérience directe. Méditation. Tournons notre esprit vers l'intérieur et laissons-le contempler sa qualité première, qui est simplement de connaître. Cette faculté, la pleine conscience à l'état pur, illumine toute pensée et toute perception. C'est une qualité constante et fondamentale du flux de la conscience. Nous pouvons en faire l'expérience, même en l'absence de pensée et d'image mentale. Essayons d'identifier cet aspect primordial de toute expérience. Puis, laissons notre esprit reposer quelques instants dans cette pleine conscience non-duelle, claire et lucide, dénuée de concepts et de pensées discursives. Source d'inspiration par Shapkar. Présence transparente, infinie ouverture, sans dehors ni dedans, tout embrassante, sans frontières ni direction, immensité infinie de la vue, véritable condition de l'esprit, tel l'espace du ciel, qui n'a ni centre, ni périphérie, ni référence. Surmonter les obstacles. Tout entraînement implique des efforts, et tout changement rencontre naturellement des résistances. Dans le cas de l'entraînement de l'esprit et de la méditation, différents obstacles peuvent ralentir notre progression. Les instructions traditionnelles sur la méditation incluent au nombre de ces obstacles la paresse, la torpeur, et son contraire, l'agitation distraite, ainsi que le manque de persévérance et son opposé, l'effort excessif. La paresse, que l'on rapproche de l'indolence et du manque de motivation, peut prendre plusieurs formes. La paresse ordinaire est le défaut de ceux qui répugnent à tout effort. Son antidote consiste à se rappeler la valeur de l'existence humaine et de chaque instant qui passe et à contempler les bienfaits de la transformation intérieure. Ces réflexions permettent de raviver l'inspiration et l'enthousiasme. Une autre forme de paresse consiste à penser « Ça, ce n'est pas pour moi, c'est au-delà de mes capacités, je préfère ne pas m'y engager ». En somme, on renonce à la course avant même d'avoir franchi la ligne de départ. Pour contrecarrer cet obstacle, estimons à sa juste valeur le potentiel de transformation qui existe en nous-mêmes et envisageons le but de l'existence d'un point de vue plus vaste. Troisième forme de paresse. Ne pas être déterminé à réaliser d'abord ce que l'on sait être le plus important et au lieu de cela, dilapider son temps en activités mineures. Pour y remédier, nous devons établir une hiérarchie dans nos préoccupations et nous souvenir que notre temps est compté, alors que les activités ordinaires n'ont pas plus de fin que les vagues sur l'océan. La distraction est le parasite le plus commun de la méditation. Quel pratiquant n'en a pas été victime ? Elle est tout à fait normale, puisque nous entreprenons cette pratique avec un esprit indiscipliné et chaotique. Nous ne pouvons raisonnablement pas espérer qu'il va se calmer sur le champ. Il n'y a donc aucune raison de désespérer. Le but de la méditation est précisément de rendre l'esprit souple et maniable, concentré ou détendu à volonté et surtout libéré de l'emprise des afflictions mentales et de la confusion. Comme antidote à ces dernières, il faut cultiver la vigilance et chaque fois que l'on s'aperçoit que son esprit a vagabondé, le ramener inlassablement sur l'objet de la méditation. Lorsque nous nous apercevons soudain que nous avons été distraits, c'est le signe que la pleine conscience est de retour. Nous devons donc nous en réjouir et non pas le regretter. Plus nous prenons conscience de notre distraction, plus notre méditation progresse. Souvenons-nous de la raison pour laquelle nous méditons. Notre but n'est pas de perdre notre temps en laissant vagabonder les pensées, mais d'utiliser ce temps au mieux pour établir les conditions d'un vrai bonheur partagé. La torpeur et l'agitation constituent elles aussi deux obstacles majeurs qui font perdre le fil de la méditation. La torpeur nuit à la clarté de l'esprit et l'agitation à sa stabilité. La première peut aller d'une simple lourdeur d'esprit au sommeil, en passant par la léthargie, l'ennui, la rêverie éveillée ou tout autre état mental vague et nébuleux. Ce manque de clarté constitue un obstacle d'autant plus important que l'on souhaite utiliser la concentration pour mieux comprendre la nature de l'esprit. Comme l'explique Bokar Rinpoche, un maître de méditation contemporain, lorsqu'en plein jour nous contemplons la mer à travers l'eau claire, nous voyons les pierres et les algues du fond. La méditation doit posséder cette même qualité claire qui permet d'être pleinement conscient de la situation de notre esprit. La nuit, en revanche, la surface des flots est une masse sombre et opaque qui ne laisse pas pénétrer le regard. Tout comme l'esprit lourd et enténébré malgré une apparence stable, empêche en fait de méditer. Pour contrecarrer cet état, il est conseillé d'adopter une posture plus droite et tonique, de regarder plutôt vers le haut, dans l'espace devant soi, et de porter moins de vêtements si l'on est trop couvert. Il faut aussi raviver son attention et mettre l'accent sur la pleine conscience du moment présent. L'agitation est une forme de distraction hyperactive dans laquelle l'esprit produit en chaîne des pensées entretenues par les automatismes et l'imagination. Cette agitation fiévreuse ne cesse de nous emporter loin de notre objet de concentration. Nous sommes assis tranquillement, mais notre esprit fait le tour du monde. Dans ce cas, relâchons un peu notre posture physique, baissons le regard, et reprenons nos sens en nous rappelant pourquoi nous sommes là et quel est le but de nos efforts. Tout entraînement requiert des efforts réguliers. Le manque de persévérance diminue considérablement les effets de la méditation et affaiblit par là son pouvoir de nous transformer. Ainsi que nous l'avons souligné au début, un gros effort de temps à autre n'a pas le même effet bénéfique qu'un effort moins spectaculaire, mais continu. Il ne suffira pas à transformer l'esprit de façon profonde et durable. Là encore, il faut remédier à cette faiblesse, en réfléchissant à la valeur du temps qui passe, à l'incertitude de la durée de notre vie et aux bienfaits de l'entraînement dans lequel nous sommes engagés. On peut aussi tomber momentanément dans l'excès contraire, à savoir l'effort excessif, du fait que l'on a remédié à la nonchalance plus longtemps que nécessaire. La tension qui en résulte finit par distraire de la méditation elle-même. Il faut donc équilibrer ses efforts. Autrement dit, conserver un juste milieu entre tension et relâchement, comme le Bouddha l'avait conseillé au joueur de vina dont nous avons parlé, et cesser d'appliquer un antidote lorsqu'il n'est plus nécessaire, laissant l'esprit reposer calmement dans son état naturel. L'effort excessif peut aussi résulter de l'impatience ou de l'exaltation, deux états qui ne mènent nulle part. Si pour gravir une haute montagne on commence par courir, on devra vite s'arrêter, les poumons en feu. De même, si l'on bande trop un arc, il se brisera, et si l'on règle le feu trop fort pour cuire un plat, celui-ci brûlera au lieu de mijoter. Exiger un résultat immédiat relève du caprice ou de la paresse. Le Dalaï Lama dit avec humour « En Occident, les gens sont parfois un peu trop pressés. Ils aimeraient atteindre l'éveil rapidement, facilement et, si possible, à peu de frais. De même qu'il faut de la patience pour faire pousser une récolte, il ne sert à rien de tirer sur les plants pour les faire sortir plus vite. La constance est indispensable à la pratique de la méditation. Les textes de méditation enseignent 9 méthodes pour cultiver l'attention, établir l'esprit dans l'équanimité et le rendre plus stable. Rappelons que, dans ce cas, la pleine conscience consiste à rester sans cesse attentif à l'objet de concentration choisi. Premièrement, concentrer l'esprit, même si ce n'est que brièvement au début, sur un objet, conformément aux instructions, en évitant qu'il ne se laisse entraîner par des images ou des pensées discursives. Deuxièmement, poser l'esprit continuellement sur cet objet, pendant une période de temps accrue, sans tomber dans la distraction. Pour y parvenir, il faut se rappeler très clairement les enseignements sur la façon de maintenir l'esprit concentré sur son support, les garder en mémoire et les mettre en pratique avec soin. Si l'on applique ces instructions avec vigilance, on sera en mesure de reconnaître la distraction sur le champ. Troisièmement, poser l'esprit de façon répétée en vérifiant à intervalles réguliers s'il demeure sur son objet et en l'y ramenant rapidement chaque fois que l'on s'aperçoit que la distraction l'en a écarté. Pour cela, il faut reconnaître que l'esprit a été distrait, identifier l'émotion ou la pensée qui a provoqué cette distraction et mettre en œuvre l'antidote approprié. Peu à peu, on devient capable de maintenir l'esprit calme et stable pendant de plus longues périodes de temps, tout en gardant une concentration plus claire. Quatrièmement, poser l'esprit avec soin. Plus l'esprit est ferme, plus il est précisément concentré, plus on est enclin à méditer. Même si l'attention n'est pas encore parfaite, on arrive à ne plus perdre complètement le support de sa méditation, et on est libéré des formes les plus perturbantes de l'agitation mentale. Cinquièmement, maîtriser l'esprit. Lorsque la concentration parvient à se stabiliser, elle risque parfois de se transformer en une torpeur subtile. Dans ce cas, on ravive l'acuité et la clarté de la présence éveillée et on renouvelle l'inspiration et l'enthousiasme en considérant les bienfaits de la concentration parfaite. Samadhi. Sixièmement, pacifier l'esprit. À force de raviver cette acuité, celle-ci peut engendrer une agitation mentale qui déstabilise la concentration et prend la forme d'une petite conversation discrète en arrière-plan de l'attention. Le fait de considérer alors les écueils de l'agitation et de la distraction permet de calmer l'esprit et de le rendre clair et limpide, à l'image d'un son pur émis par un instrument de musique bien accordé. Septièmement, pacifier complètement l'esprit en ayant recours à l'attention soutenue et enthousiaste afin d'abandonner tout attachement aux expériences méditatives. Celles-ci peuvent revêtir plusieurs aspects tels que la félicité, la clarté ou l'absence de pensées discursives, et se traduire aussi par des mouvements spontanés d'allégresse ou de tristesse, de confiance inébranlable ou de peur, d'exaltation ou de découragement, de certitude ou de doute, de renoncement aux choses de ce monde ou de passion, de dévotion intense ou de vue négative. Toutes ces expériences peuvent survenir sans raison apparente. Elles sont le signe que des changements profonds se produisent dans notre esprit. Il faut se garder de s'identifier à ces expériences et ne pas leur accorder plus d'importance qu'au paysage que l'on voit défiler par la fenêtre d'un train. Grâce à l'attention parfaitement pacifiée, ces expériences s'évanouiront d'elles-mêmes sans troubler l'esprit et celui-ci connaîtra alors une profonde paix intérieure. Huitièmement, garder l'attention concentrée en un point. Après avoir éliminé la torpeur et l'agitation mentale, gardez l'attention stable et claire sur un point pendant toute une séance de méditation. L'esprit est alors comme une lampe protégée du vent, dont la flamme stable et lumineuse éclaire au maximum de ses capacités. Il suffit d'un effort minimal au début de la séance de méditation pour rétablir l'esprit dans le flux de la concentration où il se maintient ensuite sans difficulté, demeurant dans son état naturel, libre de contraintes et de perturbations. Neuvièmement, reposer dans un état de parfait équilibre. Lorsque l'esprit est pleinement familiarisé avec la concentration sur un seul point, il demeure dans un état d'équanimité qui advient spontanément et se perpétue sans effort.